Voici le troisième épisode de ma série consacrée à l'année 1972. Au programme, Gisèle Halimi ferraille contre l'avortement, on a remarché sur la Lune, une tuerie aux nouvelles galeries d'Angoulême et une flopée d'histoires insolites exhumées des archives d'Europe numéro 1.
1972, Ondelatte raconte sur Europe 1.
En 1972, l'avortement est toujours interdit en France. Celles qui ont les moyens vont se faire avorter en Angleterre ou en Suisse, et les autres avortent clandestinement. Mais le débat est sur la table, faut-il autoriser l'avortement? Les Français sont partagés.
Moi je trouve que c'est tout à fait un crime d'avorter quelqu'un, parce que l'enfant serait peut-être devenu quelqu'un de très bien.
Moi je suis pour l'avortement, parce que je trouve que la femme doit être libre de son corps. C'est elle qui veut l'enfant, si elle ne le veut pas, elle est tout à fait libre de le refuser.
Non, mais si la femme ne veut pas l'enfant, ben fallait qu'elle y pense avant.
Moi je trouve que c'est pas seulement la femme qui est concernée, parce que ça intéresse l'homme autant que la femme autant que l'homme.
Et puis cette année-là, 1972 donc, la France découvre l'histoire de Marie-Claire Chevalier. Elle a 16 ans, elle a été violée par un garçon et elle est enceinte. Avec le soutien de sa mère, elle a avorté clandestinement.
Je dis qu'à 16 ans, une enfant n'est pas capable d'élever un enfant, c'est pas possible. Quand je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu comptes faire? Elle m'a dit, il n'y a rien à faire, de toute façon je ne le garderai pas.
Et comment vous avez réagi?
Comme une mère qui travaille pour élever 3 enfants, quoi. J'ai trouvé que la meilleure solution, c'était celle de la faire avorter. Il n'y a pas de problème. Si, le seul problème, c'était de trouver de l'argent.
Vous n'êtes pas dit à aucun moment, c'est quand même triste, enfin, d'être obligé de passer par là
Si, c'est triste, ça marque, certainement, ça l'a marqué, mais enfin, c'est éviter à des malheureux beaucoup de souffrance, parce que c'était faire des malheureux des deux côtés.
Et après cet avortement terminé, vous aviez l'impression que tout était fini, quoi.
Oui, absolument, absolument.
Marie-Claire et sa mère auraient voulu garder cet avortement secret. Sauf que le jeune homme qui l'a violé est arrêté par la police pour vol de voiture et qu'il la balance. Et donc, la police débarque chez Marie-Claire, qui reconnaît les faits. Résultat, la fille, la mère et l'avorteuse sont inculpés pour pratique ou complicité d'avortement illégal. À l'approche du procès, la mère de l'adolescente raconte la violence de cette dénonciation.
Et puis crac, un beau jour, la police qui arrive à la maison, et puis voilà, le grand cinéma, madame, dites-nous tout, il vous arrivera rien, et puis hein, voilà où on en est aujourd'hui. C'est tout à fait injuste, c'est une loi qui est très injuste. La loi, elle est faite pour les riches, ceux qui ont les moyens d'aller en Angleterre, d'aller en Suisse, d'aller partout ailleurs. Bon, ben ils ont de l'argent, c'est très bien, c'est la justice des pauvres, c'est ça.
Qu'est-ce que vous entendez par justice des pauvres?
Les pauvres, on les condamne parce qu'ils n'ont pas de moyens et ils prennent ce qu'ils ont sous la main, puis c'est tout.
On va dire aussi, il est tout de même étonnant qu'une fille de 16 ans comme ça sorte sans que sa mère s'en occupe, fréquente des garçons.
Vous savez, je pars le midi travailler, je rentre le soir. Bon, Marie-Claire avait des camarades, comme toutes les jeunes filles, elle sortait. J'étais loin de penser qu'il m'arriverait cette chose-là.
Vous aviez déjà discuté avec votre fille de problèmes sexuels?
Non, pas tellement. Hein, c'est difficile pour une maman de parler de ces choses-là avec ses enfants.
Est-ce qu'elle était avertie?
Elle était, non, pas avertie suffisamment, certainement.
En tout cas, vous estimez que vous n'êtes absolument pas responsable de quelque chose de...
Moi, j'estime que j'ai fait mon devoir de mère.
Vous estimez qu'on n'a pas à vous critiquer?
Non, on n'a pas à me critiquer, non.
Ni votre fille?
Ni ma fille.
Le procès de Marie-Claire Chevalier s'ouvre le 11 octobre 1972 devant le tribunal pour enfants de Bobigny. Elle était mineure au moment de l'avortement, donc elle est jugée séparément de sa mère et de l'avorteuse. Pour se défendre, elle choisit Gisèle Halimi, qui ferraille dur et qui obtient sa relaxe. Le soir même, sur Europe numéro 1, le docteur Claude Perret se félicite de ce jugement.
Les juges se sont montrés dans cette affaire plus raisonnables que le législateur, puisqu'ils ont adapté leur décision à notre époque.
Dans l'opinion publique, est-ce que vous pensez qu'il risque d'y avoir des réactions?
Il y aurait eu davantage de réactions de la part de l'opinion publique si cette jeune fille avait été condamnée. Car en fait, il y a là un drame que l'on ne peut pas ignorer, c'est que si cette jeune fille, n'est-ce pas, avait disposé des 200 ou 300 000 francs qui sont réclamés quand on atterrit sur l'aéroport de Londres, pour être conduite dans une clinique, n'est-ce pas, elle n'aurait pas eu de problème.
Un mois plus tard, a lieu le deuxième acte de cette histoire. On juge la mère, les deux femmes qui l'ont aidée à trouver l'avorteuse, et l'avorteuse elle-même. Et c'est encore Gisèle Halimi qui est à la manœuvre. Elle décide d'utiliser le prétoir comme tribune politique.
Ce que j'essaie de démontrer, c'est qu'au-delà du cas de Madame Chevalier, et au-delà même du cas des quatre autres inculpés, il y a une loi qui est condamnée. Et il y a cette revendication que j'estime absolument fondamentale pour les femmes que nous sommes, d'avoir le droit de disposer de nous-mêmes. Le drame, je le disais, c'est que quatre femmes aient à s'adresser pour cela, parlant de sonde, d'utérus, d'avortement et de grossesse. Quatre femmes étaient aujourd'hui jugées par quatre hommes. Et voyez-vous, en raccourci, symboliquement, c'est toute la condition de l'oppression de la femme. Je veux cet relax, je voudrais cet relax, parce qu'il me semble qu'après un jugement, il y aurait une relax générale, cette loi ne pourrait plus trouver la moindre application. Et par conséquent, d'elle-même, elle serait morte.
Le 22 novembre 1972, l'avorteuse est condamnée à une peine de 1 an de prison avec sursis. Et les 3 autres femmes, dont la mère de Marie-Claire, sont relaxées.
Pensiez-vous être condamnée ou pas ?
J'espérais être laxée, mais j'avais quand même très peur d'être condamnée. Ce que j'en pense, c'est que c'est formidable. Les juges ont enfin pris leurs responsabilités, ils ont pris connaissance des lois, que c'était plus applicable.
Madame Chevalier, c'est presque la relaxe.
Oui, on a mené un grand pas, c'est sûr.
Si vous aviez apporté un jugement, ce que vous venez de faire avec votre fille, est-ce que vous recommenceriez ?
Bien sûr que je recommencerai. Je suis très heureuse pour moi, mais tout le monde en profitera, nous continuerons. Pour toutes les femmes.
Le soir de l'annonce de la décision de justice, Gisèle Halimi, interviewée sur Europe numéro 1, mesure la portée symbolique de ce jugement.
Est-ce qu'il n'est pas finalement dangereux à long terme de supprimer toutes les barrières ?
Je vous permets de
répondre. Je vous en prie.
Il n'est pas question...
Ça nous servira de conclusion.
Écoutez, il n'est pas question de supprimer toutes les barrières. Il est question fondamentalement, parce que je voudrais bien que ce soit le débat. La question qui est posée, c'est celle-ci. Est-ce que la femme est un être libre et responsable, capable de disposer d'elle-même, car vous nous concéderez bien que c'est une liberté élémentaire et physique, notre corps. Est-elle, oui ou non, capable de le faire, dans un pays civilisé, comme on dit, la France? Est-ce qu'elle est capable de le faire? Et est-ce que ce n'est pas, au contraire, faire le progrès? Est-ce que la civilisation, ce n'est pas libérer l'autre moitié de l'humanité, faire échec à l'échec, et justement ne pas accepter cette fatalité physiologique qui consisterait à dire aux femmes, si vous êtes enceinte par erreur, par échec, par oubli, par contrainte, par viol, même, allez jusqu'au bout. Voilà la véritable civilisation, voilà le progrès, voilà l'idéal.
Et vous connaissez la suite. 2 ans plus tard, Simone Veil, ministre de la Santé, portera la loi qui légalisera l'interruption volontaire de grossesse en France.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1972.
Yeah.
Dois-je dire qui chantait cette chanson? Et d'ailleurs, comment elle s'appelle? John Lennon. 1972, Imagine, chanson considérée comme l'une des meilleures chansons pop de tous les temps.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
En décembre 1972, Apollo 17 doit conclure le projet lancé au début des années 60 par le président Kennedy.
Apollo 17 est en orbite autour de la Lune depuis 20h54, heure de Paris, après que René Vance, le pilote du module de commande, celui qui ressemble à un Jean-Yann un peu chauve, ait mis à feu le moteur FPS du module de service pendant 6 minutes 38 secondes exactement, cassant la vitesse du vaisseau spatial de 6150 km/h à 3420 km/h. D'ici une heure environ, Evans remettra à feu le moteur du module de service pour placer Apollo 17 sur orbite basse. Si tout se passe bien, l'équipage survolera alors la Lune à des altitudes comprises entre 25 km pour la plus basse et 109 km pour la plus haute.
Le 11 décembre 1972, l'équipage composé de Ronald Evans, de Gene Cernan et d'Harrison Schmitt se pose sur la Lune.
Après 20h50, le LEM Challenger, piloté par Gene Cernan et le docteur Harrison Schmitt, s'est posé comme une fleur sur la Lune à 360 mètres à l'est du point prévu, entre un cratère d'une centaine de mètres de diamètre, le cratère Poppy, et un champ de rochers. Au moment où Schmitt hurlait de joie, après avoir néanmoins récité à toute allure la checklist d'après alunissage, ici, à Houston, un ingénieur d'une quarantaine d'années, qui a participé à la conception du LEM, s'est mis à pleurer sans fausse honte et beaucoup de ses collègues étaient sur le point de l'imiter. C'est la dernière fois, en effet, que nous assistons à l'alunissage d'une mission Apollo.
Cernan et Schmitt effectuent une première sortie extravéhiculaire sur le sol lunaire. Le début de la mission est alors présenté comme une réussite.
Pour l'instant, le meilleur qualificatif qu'on puisse appliquer à Apollo 17 est époustouflant. Nous avons eu un vol Terre-Lune parfait, des mises à feu sans bavure, des trajectoires d'une précision jamais vue, l'alunissage le plus doux et cette nuit, lors de la première exploration lunaire de Gene Cernan et du docteur Harrison Schmitt, nous avons vu des paysages encore plus beaux que ceux des vols précédents. Les deux astronautes qui sont sur la Lune, de plus, sont parmi les plus attachants des hommes de l'espace. Il y a d'abord Gene Cernan, 38 ans, le commandant, avec son physique d'acteur de western et ses cheveux déjà tout blancs, qui nous a donné l'impression de chaperonner toute la nuit le docteur en géologie Harrison Schmitt, 36 ans, qui, malgré les émotions de la journée d'hier et 10 heures de travail consécutives sans repos, a littéralement dégringolé l'échelle du LEM Challenger, excité comme une puce à l'idée d'explorer cette vallée de la Lune en bordure de la mer de la Sérénité.
Chaque jour, au réveil des astronautes, la NASA diffuse les premières mesures d'Ainsi parlait Zarathoustra de Richard Strauss, musique que Stanley Kubrick a utilisée 4 ans plus tôt pour son film 2001, l'Odyssée de l'espace.
Good morning, Challenger, and thank you for the vocal rendition from the moon there.
Au total, les trois hommes effectuent 3 sorties, le temps de collecter plusieurs dizaines de kilos de roches. Et le 14 décembre, 3 jours après leur arrivée, ils repartent.
Adieu la Lune. Les 2 derniers explorateurs du programme Apollo ont regagné Challenger à l'heure prévue, après une dernière expédition d'une quinzaine de kilomètres. Plus que les nouveaux échantillons ramassés et les nouveaux paysages pourtant fabuleux que nous avons vus sur nos écrans, c'est la cérémonie d'adieu à la Lune de Schmitt et Cernan qui restera comme le grand moment de cette 3e sortie sur la Lune d'Apollo 17. Il y a eu une plaque de dévoilée sur le LEM qui dit « Ici, l'homme a terminé ses premières explorations de la Lune au mois de décembre 1972. Puisse l'idéal de paix dans lequel nous sommes venus se refléter dans la vie de l'humanité. » Et c'est signé Gene Cernan, Ron Evans, Harrison Schmitt, astronaute, mais il y a aussi la signature de Richard Nixon.
Mais l'équipage ne rentre pas tout de suite sur Terre. Il reste encore du travail, comme l'explique le journaliste Albert Ducrot sur Europe numéro 1.
Les astronautes d'Apollo 17 vont encore rester 2 jours en orbite autour de la Lune pour la photographier, pour mesurer la température de ses terrains, pour sonder son sous-sol par radar. Et il s'agit peut-être de la partie la plus importante de la mission pour la préparation des vols futurs. la leçon des opérations Apollo, c'est en effet la grande difficulté de trouver sur la Lune des phénomènes intéressants. Or, même avec des voitures rapides, même au prix de nombreux débarquements, l'homme ne pourrait prospecter qu'une fraction infime de la surface lunaire. Pour cette raison, priorité va probablement être maintenant donnée aux opérations orbitales. On peut imaginer que, dans un premier temps, les futurs programmes lunaires chercheront plus à faire tourner des hommes autour de la Lune qu'à les déposer en un point de son sol.
En décembre 1972, le nombre de personnes ayant marché sur la Lune s'élève désormais à 12.
12 hommes ont marché sur la Lune sous la bannière étoilée du programme Apollo et tous les 12 sont revenus sains et saufs sur Terre. En tout, 30 astronautes avaient été sélectionnés pour participer aux missions Apollo. 3 sont morts dans l'incendie d'Apollo 1 avant même d'avoir quitté le sol lors d'une séance d'entraînement. Grissom, White et Chaffee.
Al Green avec Let's Stay Together, chanson que Tina Turner reprendra 10 ans plus tard.
Ondelat raconte, Christophe Ondelat.
Le 15 mai 1972, la reine Elisabeth II doit effectuer une visite officielle en France, la deuxième depuis 1957, année où elle a été reçue par le président René Coty. Pour l'occasion, la première dame, Claude Pompidou, sera habillée par Chanel.
Dans la garde-robe de printemps qu'elle s'est fait faire chez Chanel, elle a réservé spécialement deux modèles sur ceux qu'elle s'est fait faire pour la venue de la reine, qu'elle n'a pas encore mis et qu'elle garde pour cette occasion. Alors il y a une robe du soir qui est en tulle rebrodée de fil d'or, en tulle lamée, longue, c'est un fourreau, avec une petite cape partant des épaules jusqu'au bas des reins. Et d'autre part, elle a gardé aussi un manteau et une jupe en tweed bleu marine et blanc, avec une blouse en percale blanche pour la journée. Je pense qu'elle la mettra soit pour accueillir la reine, soit pour un déjeuner.
Est-ce que l'on peut parler de prix en haute couture ?
Nous ne communiquons jamais les prix.
Dès son arrivée à Paris, la reine se rend à l'Élysée. Et de nombreux curieux ont fait le déplacement pour tenter d'apercevoir le couple royal sur le trajet.
Tenez, là, les motards, là. Voilà.
Oh, c'est beau, ça.
Oui, c'est le sommet. C'est vrai ?
Ça, c'est les officiels, c'est les députés.
Ah,
c'est les...
Tiens,
c'est voilà, regardez. Ouais ! Quel éclat. C'est comme ça. Le roi et la reine derrière. Comment le prince qui faisait comme ça avec sa main.
C'est beau, hein. C'est bien.
Elle a taillé, c'est quand
même. Oh, c'est toujours aussi joli. C'est grandiose. L'accompagnement, ce sont tous ces motards, ce sont toutes ces belles voitures luisantes, enfin.
Et vous l'avez bien vu passer ?
Oui, oui, ça passe assez doucement pour qu'on puisse la voir. Du reste, c'est la deuxième fois que je la vois.
À l'Élysée, Le président Georges Pompidou porte un toast à la reine et au Royaume-Uni dans un contexte un peu particulier, car la France vient de lever son veto à l'entrée de la Grande-Bretagne dans la communauté européenne.
Ainsi, madame, la visite de votre majesté n'est pas une simple marque d'amitié. Elle est le signe visible d'une volonté et d'une espérance réciproque. C'est vous dire avec quelle joie je la salue. Au nom de la France, je vous adresse nos souhaits les plus chaleureux de bienvenue sur notre sol. J'espère que votre séjour dans notre capitale, puis dans nos provinces, vous sera agréable. Mais je puis vous assurer qu'il vous apportera le témoignage de la sympathie du peuple français pour le peuple britannique et de son affectueux respect pour votre personne et votre famille. Vive la Grande-Bretagne et vive l'amitié franco-britannique.
Dans la foulée, la reine d'Angleterre rend l'amabilité au président de la République française, dans un français impeccable.
Je suis venue vous exprimer l'amitié de mon peuple pour la France. En un moment où partons de nos passés distincts, nous allons à la découverte d'un avenir commun. Il y a 15 ans, en avril 1957, nous nous trouvions, mon mari et moi, dans ce même salon. C'était le début de notre dernière visite, dont nous gardons tant d'agréables et lumineux souvenirs. La France nous avait ouvert son cœur et nous avait séduits par sa courtoisie et ses charmes éternels.
Et la reine d'Angleterre déclare dans la foulée son amour pour Paris.
Pour nous, Paris n'est pas une ville comme les autres. C'est une lumière qui scintille dans les imaginations. Un lieu tout imprégné d'histoire, d'intelligence et d'art, de romanesque aussi. Paris est éternelle, mais elle sait s'accorder à la marche du temps. Elle est devenue moderne. Elle a fait sa place à la technologie, mais elle a su préserver l'essentiel de sa séculaire splendeur.
Lors de ce séjour en France, la reine Elisabeth II enchaîne les visites protocolaires. Dès le lendemain, c'est au Champ de Mars qu'on la retrouve, où elle assiste à la reprise des écuyers du cadre noir de Saumur. L'enthousiasme de cette passionnée de chevaux n'est absolument pas douché par la pluie.
Bien sûr, le protocole n'avait pas prévu que la soirée au champ serait donnée dans un jardin sous la pluie. Qui pouvait supposer, il y a seulement 8 jours, à Paris comme à Londres, que le spectacle hippique, si cher au cœur de la reine, lui serait présenté dans une nuit de mai comme on n'en a pas vu depuis le début du siècle. Et oui, c'est sous une pluie tenace et par un froid d'hiver que la reine Elisabeth a reçu le cadeau de Paris, le balai des cavaliers du cadre noir de Saumur. À l'arrivée du cortège royal et présidentiel, on était curieux de savoir comment souverains et présidents s'étaient couverts. Mais les quelques 5000 Parisiens, trempés et souriants, ont pu admirer les robes longues, blanches pour la reine et roses pour Madame Pompidou. Un remarquable balai de parapluie a permis aux hôtes et à leurs invités de prendre place dans la tribune sans recevoir la moindre goutte d'eau. Pendant le spectacle du Champ de Mars, la reine a sûrement eu froid, mais les 12 cavaliers du cadre noir de Saumur ont su lui faire oublier que ce n'est pas drôle de rester assise une heure en plein courant d'air.
Après la pluie parisienne, direction le soleil de Provence, où la reine doit retrouver son fils, Charles, engagé dans la Royal Navy. Et là aussi, comme à Paris, les Français sont ravis d'entreapercevoir la monarque.
Formidable, formidable, j'aurais jamais cru qu'on puisse l'avoir en Provence, jamais. Ça me représente une bonne partie de ma jeunesse, parce que j'ai toujours admiré cette famille, j'ai toujours suivi les rois, les reines, tout. Elle va arriver, dites-vous. C'est la République depuis déjà pas mal de temps. Et la royauté représente pour nous quelque chose de presque mirage, presque d'irréel.
Vous verrez, mais la même vie qu'elle.
D'un côté, oui, parce que, mais d'un autre côté, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre de sortir comme nous, on sort bien n'importe comment, on est... Ça veut dire zut à la voisine, on peut le dire.
Elle ne peut pas, elle.
Elle est sympathique, elle est, passez-moi l'expression, pas chuchiteuse. Elle est bien comme tout.
Je ne me dérangerai pour personne d'autre qu'elle.
Moi, je disais que les Français, ils s'intéressent beaucoup au roi des autres. Vous ne croyez pas? Si on vous en imposait un ici de roi, nous ne voudrions pas.
Et dans la foulée, une toute petite polémique éclate en Angleterre. Il y est question des tenues du prince Philippe, le mari de la reine, lors de ce déplacement à Paris.
Les tailleurs britanniques ne sont pas contents, ils sont fâchés. Ils reprochent au prince Philippe d'avoir trop souvent porté, au cours de sa visite en France, son manteau beige. Et vous allez voir qu'on l'a effectivement rencontré très souvent avec ce même par-dessus beige. Ils regrettent que le prince n'ait pas imité l'élégance du président Pompidou et qu'il ne les ait pas consultés avant son départ. Ils auraient pu lui prêter, paraît-il, un manteau noir.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1972.
On regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon cœur. Parmi ces milliers de gens, c'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. C'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. C'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille, que le ciel est beau, qu'il doit faire beau sur les routes. Le lundi au soleil, le lundi au soleil, on pourrait le passer à s'aimer. Le lundi au soleil, simplement ne rien faire. Le lundi au soleil, le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille, que le ciel est beau, qu'il doit faire beau sur les routes.
C'était Clo-Clo en 1972 avec son tube Le lundi au soleil.
De la traconte. Christophe Ondelatte.
Le mercredi 4 octobre 1972, à 14h30, le magasin Les Nouvelles Galeries d'Angoulême est plein à craquer. C'est là que Serge Alafort déboule au rayon musique. Il ouvre sa veste en daim, il en sort une carabine Winchester calibre 44 et il tire dans le tas. Ce vendeur a assisté à la scène, il raconte au micro d'Europe numéro 1.
Les gens fuyaient, il a tiré devant. Il y a une femme qui est venue tomber ici. Moi, en entendant du bruit, je suis arrivé par là. Je me suis caché derrière le poteau. Il a fait le tour. Il avait déjà tiré deux fois vers le haut. Là, vous voyez, il y a les vitres qui sont brisées. Puis, il a fait le tour derrière les gondoles de la parfumerie. Et à ce moment-là, il y avait des gens qui étaient cachés là-bas.
Et alors c'était la panique là, tout le monde courait dans tous les coins. Est-ce qu'il y avait du monde à ce moment-là?
Ah oui, le magasin était plein.
Et est-ce qu'il a blessé des gens tout de suite?
Ah oui, dès son entrée au rayon des disques, il y a un enfant qui est mort immédiatement.
Alors qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a été poursuivi par la foule?
Ah ben non, la foule fuyait devant lui, tout le monde avait peur.
Il avait qu'une seule arme
en général. Oui, il avait une seule arme. Enfin, il avait une seule arme, non. Parce que quand on l'a arrêté, quand on l'a ceinturé, quand on l'a immobilisé, on s'est aperçu qu'il avait une cartouchière complète avec et... à laquelle pendaient trois couteaux.
Et il rechargeait son arme au fur et à mesure?
Ah, il a rechargé, je l'ai vu recharger son arme. Je l'ai vu tirer trois fois l'arme à la hache en direction de gens qui étaient cachés là-bas. Puis, il a mis le genou en terre et il a rechargé son arme.
Et il visait quoi? Les enfants? Il avait l'air...
Ah, il y avait des gens qui étaient affolés, là, qui étaient accroupis là-dedans. Il a tiré vers eux, puis...
Et il s'est acharné sur les gens qu'il a blessés, ou il continuait...
Ah oui, là, franchement, il fallait qu'il ait de l'acharnement, puisqu'il y avait les gens qui étaient à terre, je voyais les jambes qui dépassaient sous le gondole, il tirait, et il a tiré trois fois l'arme à la hanche, comme un fou.
Les tirs ont duré une bonne dizaine de minutes, et le bilan humain est très lourd. 4 morts et 6 blessés. Bilan qui aurait pu être beaucoup plus lourd sans l'intervention de ce policier.
Je me trouvais en bout de la place du Champ d'Ars, lorsqu'il y a une dame qui est venue en courant et elle me dit « Vite, monsieur l'agent, il y a un fou qui est en train de tirer dans le magasin Noga avec une carabine. » Effectivement, je me suis précipité aussi vite que j'ai pu et En arrivant à la porte centrale, j'ai aperçu un monsieur avec une carabine. Je me suis cherché à me préserver d'abord. Et j'ai observé s'il y avait des gens dans mon champ de tir. J'ai vu qu'il n'y avait absolument personne. Et évidemment, j'ai dégainé. Et j'ai tiré un coup de revolver.
Il a eu peur à votre coup de feu ou quoi ?
Je crois que c'est ça. Je crois qu'il n'avait plus de munitions dans sa carabine parce qu'il était juste à côté. J'ai crié quand j'ai vu qu'il avait laissé tomber sa carabine. J'ai dit, oh, les mains en l'air, ne bougez plus. Alors les gens qui étaient cachés là, les employés, il y en a qui étaient derrière lui, ils ont vu que, ils ont entendu mon cri, vous comprenez ? Ils ont vu qu'il avait les mains en l'air, ils se sont précipités sur lui, ils l'ont ceinturé. Et moi, je suis sauté sur la carabine, mais au cas, on ne sait jamais, vous comprenez ? Avec des balles qui éclatent, et ça faisait des blessures horribles.
Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il aurait pu tirer sur vous aussi ?
Ah mais bien sûr, et il m'a vu, et il m'a même mis en joue.
Après enquête, on apprend que le tireur faisait des exercices de tir depuis plusieurs jours, depuis sa fenêtre, sans qu'aucun voisin n'ait songé à alerter la police. Idem pour cet armurier bordelais, où à la fort s'est procuré son arsenal.
Ça avait l'air d'être un gars très sérieux, très poli, très correct. Là, il n'y avait pas de problème, il était très bien habillé, très bien peigné d'ailleurs. C'était un gars qui avait l'air très très bien. Il y a beaucoup de clients même qui, s'ils étaient tous comme ça, ça serait vraiment bien pour travailler, vous voyez. Il m'avait dit, je crois bien qu'il m'avait dit que c'était pour la chasse au sanglier, vous voyez. Alors pour le sanglier, moi je lui avais conseillé le 44 Magnum. C'était plus puissant que le 30-30. C'est une munition plus lourde et elle a une puissance de choc nettement supérieure au 30-30.
Et pourquoi a-t-il paru hésiter entre deux calibres, à votre avis ?
Eh bien, pour moi, je crois que c'était surtout pour la puissance, vous voyez. Là, il était indécis entre deux calibres, le 30-30 et le 44. Et à la fin, il a choisi le 44 parce que c'était plus puissant.
Ce que cet armurier ne sait pas, et beaucoup de gens non plus, c'est que Serge Alafort a été interné en psychiatrie pendant 15 ans. Il en est sorti il y a 2 ans.
Il existe certainement dans les 50 millions de Français un nombre probablement non négligeable de sujets qui ont la possibilité éventuelle de présenter des impulsions de ce genre. Et la question, bien sûr, est de savoir si on peut le prévoir. Lorsque le malade a été hospitalisé et suivi par un psychiatre, est-ce qu'on peut demander à ce psychiatre de prévoir une possibilité de rechute ? Une possibilité de rechute en général, c'est déjà extrêmement difficile. Est-ce qu'on demande à un cancérologue, par exemple, après que le malade ait été opéré d'une tumeur, de prévoir la date à laquelle il risque de rechuter ? On dit tout au plus qu'il y a un pourcentage de risque. C'est tout ce que peut faire un médecin en ces matières. Et d'autre part, il faut bien reconnaître que des rechutes aussi dramatiques sont heureusement assez rares.
Au lendemain de la tuerie, l'un des psychiatres de Serge Alafort accepte de s'exprimer sur Europe numéro 1.
Il est sorti le 12 octobre 70, donc il y a 2 ans maintenant, à quelques jours près. Il est ressorti en octobre 70. Et depuis sa mère qui les autres fois l'amenait, signalait qu'il rechutait. Depuis 2 ans, sa mère n'a rien dit. Donc, elle ne s'est aperçue de rien, parce que c'est pas possible qu'elle ne l'ait pas dit, si elle s'était aperçue qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est ça qui est étonnant dans ce qui s'est passé. Or, en réalité, il a certainement recommencé à délirer, n'est-ce pas ? Je suis persuadé que quelqu'un aurait vu ce garçon une heure avant, même un médecin qualifié n'aurait pas, probablement pas pu supposer qu'il aurait fait ça une heure après. C'est une impulsion, c'est irrésistible, c'est subi, n'est-ce pas ? Puis que ça éclate.
En 1979, l'État sera reconnu responsable des préjudices provoqués par cette tuerie. Le Conseil d'État évoquera même une faute lourde dans le fonctionnement des services chargés de la police des malades mentaux.
Ondelatte raconte, Christophe Ondelatte.
Voici donc un chapelet d'histoires insolites de 1972. Je les ai toutes dénichées dans les archives d'Europe 1. Celle-là, d'abord. L'histoire d'un curé qu'on retrouve endormi dans une église du Lot-et-Garonne.
Il ressemble pas à un curé.
Non. Pourtant, c'est un brave mec quand même. Je me rappelle quand il avait la soutane, elle était toute... Ça posait des franges partout, il y avait des fils qui allaient passer des manches du fond. Le pauvre bougre,
il ressemble davantage à un clochard, là.
Oui, ça peut ressembler à un clochard.
Lorsqu'on l'a retrouvé dans le couvent, là, il avait une bouteille de vin avec lui, il s'était endormi sur un banc, c'est ça ?
Il avait pris le casse-croûte à Montauban. Et alors il rapportait la bouteille et il a dû s'endormir sur un bas. Il y avait le soleil et peut-être il avait bu le litron. Alors ça... Mais après, il a dû avoir un morlot de réveil quand même, parce que la sœur qui le vide, il dit, c'est une église ici, et il dit, je le sais bien, je suis curé. Elle n'a pas voulu le croire, elle l'a foutu dehors quand même.
Vous ne croyez pas quand même que la bonne sœur, elle aurait dû faire acte de charité quand elle a vu ce vieux monsieur là, assis sur son banc?
Elle aurait dû au moins lui demander s'il était malade, s'il avait besoin de quelque chose. Et surtout qu'elle ne l'a pas trouvé en train de dévaliser les troncs où il dormait. Et ça peut arriver à tout le monde de s'endormir à l'église.
Dans les églises de France en 1972, on ne trouve pas que des curés qui pioncent, on trouve aussi des pigeons perturbateurs.
Je me suis dit, n'insistons pas, ça va être la débandade pendant tout l'office, non seulement chez les enfants, mais même chez les grandes personnes. Alors j'ai été chercher le voisin, là, dont je sais qu'il a un excellent coup de fusil. Et puis il est arrivé avec sa carabine et du premier coup, il a foudroyé le pigeon. Je me refuse toujours à ce que ces pauvres bêtes soient maltraitées. En particulier, je n'ai jamais voulu qu'on mette du poison ou quoi que ce soit pour les exterminer systématiquement. Là, c'était un cas de force majeure, étant donné qu'il n'y a pas d'ouverture par où les faire sortir. Il était entré par une petite porte donnant sur la tribune. Et alors, il n'était pas possible de le faire sortir. J'ai bien essayé, j'ai emmanché la barre avec la tête de loup pour essayer de le faire partir, il n'y avait rien à faire.
Et quelle a été la réaction des habitants qui assistaient à la messe?
Oh, il y a quelques personnes qui ont dit quand même, c'est un peu cruel cela. Et puis devant le fait tel qu'il s'était passé, il n'y a pas eu de pleurs versés.
Mais je crois qu'il y a eu quand même quelques réactions, même assez lointaines, disons, puisqu'elles viennent de Suisse,
et
de
oui,
la SPA peut-être.
Oui, j'ai eu un coup de téléphone anonyme d'ailleurs, d'une personne qui m'a dit connaître la région et qui viendrait me faire rendre raison de ce fait, et qui d'emblée, d'ailleurs, sans être nommé, m'a traité de salaud. Alors, la première fois, j'ai laissé passer, et puis au second salaud, j'ai raccroché.
Cette année-là, les pigeons sèment donc la zizanie dans les églises, et des vaches mettent le bazar dans les hôtels.
Et bien, à 4 heures, j'étais dans mon bureau, tout d'un coup, j'attendais un bruit, je me lève, je cours dans le hall, et puis je vois une vache qui est passée à travers des baies vitrées, à travers la baie de l'hôtel, la baie qui donne sur la mer. Ah oui, la baie qui donne sur la mer. Ouais, elle était suivie par des gens de l'abattoir, mais enfin, qui n'arrivaient pas à la rattraper. Ils étaient au moins 7 et j'avais plutôt l'impression qu'ils avaient plutôt peur. Mais une vache vraiment enragée, et la voilà partie vers la cuisine. Là, justement, le plongeur était en train de nettoyer la cuisine. Alors le plongeur, c'était Patrick, il était tout seul dans la cuisine quand ça s'est passé. J'étais surpris quoi, de voir rentrer un animal comme ça dans la cuisine, j'étais étonné. Et puis, juste en face, là, j'étais juste de l'autre côté, là, vite. Et juste passé entre le fourneau et le bio. Le tueur est venu de suite après, il a saisi la vache par les cornes, et puis son assistant est arrivé avec un pétard.
Et là aussi, un peu comme avec les pigeons, l'histoire ne se termine pas très bien.
Mais le plus drôle, ils voulaient la ressortir vivant, chose que je refusais. Et là, de là, ils ont couru vite à l'abattoir pour chercher le pistolet. Ah, parce que leur intention, c'était de la ressortir vivante. Ah oui, bien sûr, mais enfin, moi, je voulais quand même pas qu'on m'abîme encore plus l'hôtel qu'on l'avait déjà abîmé.
Autre histoire invraisemblable maintenant. Il n'est plus question d'animaux, mais d'enfants. Le 23 décembre, trois jeunes habitants de Tarbes de 8, 11 et 12 ans disparaissent du domicile de leurs parents. D'après ce qu'on sait, ils auraient été sévèrement réprimandés par le père de l'un d'entre eux et se seraient fait la malle à cause de ça. Heureusement, ils sont retrouvés sains et saufs dès le lendemain, mais à 400 km de chez eux, de l'autre côté de la frontière franco-espagnole.
Ils ont été retrouvés en Espagne, à Paseo de Gracia, du côté de Barcelone, et je viens d'en avoir confirmation moi-même en appelant Barcelone il y a un petit moment.
Comment ont-ils été?
Ah ben nous ne savons pas. Disons que nous avons accéléré les choses pour pouvoir informer les parents et les rassurer rapidement. Nous le saurons bientôt, mais je vous conseille que cela pose un problème, car passer l'Espagne maintenant par l'école, ça n'est pas pensable. Et peut-être ont-ils réussi à passer inaperçu à une frontière normale, nous ne savons pas. L'essentiel, c'était qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient retrouvés.
Ça veut dire en tout cas qu'ils ont fait de l'autostop?
Ah, vraisemblablement, oui. Nous le pensons.
Donc un autostoppeur a peut-être été complice de leur fugue?
Oh, vous savez, complice, ce n'est pas obligatoire. Souvent, des enfants arrivent à faire beaucoup de kilomètres en racontant qu'ils vont voir les parents au village à côté. L'automobiliste le croit et les prend. Il n'est pas forcé que l'automobiliste soit complice.
Et par qui ont-ils été retrouvés?
Ah, ils ont été retrouvés, je pense, par la police espagnole, puisqu'ils sont dans un centre d'hébergement de mineurs. Et on nous a téléphoné de là par le consulat d'Espagne à Toulouse.
Les trois jeunes mineurs ont réussi à passer la frontière entre la France et l'Espagne à bord d'un train et 100 billets. Un billet, tous ceux qui viennent passer du bon temps à la Foire du Trône à Paris en 1972 en sont munis, en revanche. Même les reporters d'Europe numéro 1.
Vous avez devant vous le professeur Lambert, trappeur, explorateur et dresseur de fauves. Je suis un des plus vieux dresseurs de fauves de France.
Vous avez 95 ans, est-ce que c'est pas un peu éprouvant comme métier?
Ben non, c'est-à-dire que moi j'ai toujours fait ça de ma connaissance. J'ai toujours été sur le voyage, mes parents aussi. Je suis le doyen de la foire.
Après le plus vieux dresseur de fauves, place maintenant au catcheur, que le public peut affronter moyennant quelques sous. Et certains vaillants n'ont visiblement pas peur de s'y frotter.
Ben vous savez, c'est la première fois, parce que moi je travaille à la Villette. Moi. Et croyez-moi, c'est pas les catcheurs qui me font peur. Moi. En voilà d'autres, moi, croyez-moi. Moi. C'est pas des gars comme ça, moi j'ai l'habitude de trimballer la viande. C'est des petits rigolos pour moi, les catcheurs.
Et ça vous fait pas peur la bagarre avec un homme de cette taille?
Bah vous savez, on va voir sur le ring qu'est-ce que ça va donner. Hein. C'est peut-être lui qui va me casser la gueule.
Mais les attractions les plus étonnantes cette année-là à la Foire du Trône, les voici. D'abord, la femme crocodile.
J'ai l'honneur de vous présenter pour la première fois dans notre ville la femme crocodile vivante. La femme crocodile ne possède de la femme que la tête seulement. Venez jeter un petit coup d'œil.
Voilà pour la femme crocodile. Mais il y a aussi la femme panthère qui accepte de raconter son histoire au micro d'Europe numéro 1.
Je suis née à Johannesburg, en Afrique du Sud. Mes parents étaient tout à fait normaux. Mon père est bavarois, ma mère est normande. Et lors d'une safari, elle a eu très peur d'une panthère, ce qui a fait que quand je suis venue au monde, je suis venue avec des taches, le corps entièrement recouvert de taches. Comme une panthère, exactement pareil.
Vous vous considérez comme une femme normale?
Lorsque je suis dans la rue, oui. Enfin, ici, je sais que je ne suis pas tout à fait normale, que je ne suis pas comme les autres. Hein. Maintenant, je me suis toujours vue comme ça, j'ai toujours été habituée à me voir comme ça, maintenant, ça ne me fait plus rien.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien, tu sais bien. Elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra tire d'aile en rapportant qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Julien Clerc avec « Ce n'est rien », chanson de 1972, paroles d'Étienne Rodagier. La suite de notre exploration de l'année 1972 dans le quatrième épisode.
Retrouvez On de la Traconte du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.